France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique.
Il pourrait paraître abusif d'ajouter au plateau éblouissant que nous présente dans un instant Jacques Le Goff, le nom illustre d'un anthropologue et ethnologue, Pierre Clastres. N'est-il pas vrai cependant qu'un Jean-Pierre Vernan, que nous réentendrons avec enchantement parmi ses confrères, avouait lui-même se définir comme un anthropologue historien? Et c'est bien le sens qu'il a voulu donner d'ailleurs au Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes. Dans son archéologie de la violence, donc, la guerre dans les sociétés primitives, Pierre Clastres précise que l'examen des faits ethnographiques démontre la dimension proprement politique de l'activité guerrière. Elle ne se rapporte ni à la spécificité zoologique de l'humanité, ni à la concurrence vitale des communautés, ni enfin à un mouvement constant de l'échange vers la suppression de la violence. La guerre s'articule à la société primitive en tant que telle, aussi est-elle universelle, et elle en est un mode de fonctionnement. C'est la nature même de cette société qui détermine l'existence et le sens de la guerre. C'est-à-dire que l'état de guerre est permanent, puisqu'avec les étrangers, on a seulement un rapport d'hostilité, mis en œuvre effectivement ou non dans une guerre réelle. Ce n'est pas la réalité ponctuelle du conflit armé, du combat qui est essentielle, mais la permanence de sa possibilité, l'état de guerre permanent en tant qu'il maintient, dans leurs différences respectives, toutes les communautés. Ce qui est permanent, structural, c'est l'état de guerre avec les étrangers qui culmine parfois, à intervalles plus ou moins réguliers, plus ou moins fréquemment selon les sociétés, dans la bataille effective, dans l'affrontement direct. L'étranger est alors l'ennemi, lequel engendre à son tour la figure de l'allié. Bien sûr, nous avons Hobbes. Hobbes a su voir, dit d'ailleurs plus loin Clastres, que la guerre et l'État sont des termes contradictoires, qu'ils ne peuvent exister ensemble, que chacun des deux implique la négation de l'autre. L'essai de Pierre Clastres est paru pour la première fois en 1977. Il suit de près, de cette année, la parution des deux ouvrages que Jacques Le Goff nous présente maintenant pour les lundis d'histoire, une histoire de l'Antiquité.
Je suis heureux de présenter ce matin, au lundi de l'histoire, deux ouvrages consacrés à l'histoire ancienne dont nous n'avons pas suffisamment parlé, me semble-t-il, ces derniers temps. Je suis d'autant plus heureux que les ouvrages dont nous allons débattre ce matin sont deux ouvrages jumeaux traitant de problèmes d'une très grande importance pour l'histoire de l'Antiquité et que les équipes qui ont écrit ces ouvrages ont su donner à ces problèmes toute leur dimension historique et scientifique. Il s'agit de deux ouvrages consacrés au problème de la guerre dans l'Antiquité, le premier au problème de la guerre en Grèce ancienne, le second au problème de la guerre à Rome. Ces deux ouvrages ont été récemment publiés aux éditions Mouton. Le premier de ces volumes, celui consacré au problème de la guerre dans la Grèce ancienne, a eu pour maître d'œuvre Jean-Pierre Vernan, et le second, celui consacré au problème de la guerre à Rome, Jean-Paul Brisson. Je n'ai pas pu, bien entendu, demander de venir ce matin à ce micro aux nombreux auteurs qui ont collaboré à ces deux ouvrages. Si je ne m'abuse, 17 pour le volume sur la Grèce, 10 pour le volume sur Rome. Que je rassure d'ailleurs tout de suite les auditeurs que ces chiffres pourraient effrayer, le nombre des collaborateurs et des articles n'enlève rien à l'unité dans les problèmes et dans le traitement de ces problèmes de chacun de ces ouvrages qui sont d'ailleurs eux-mêmes articulés, l'un par rapport à l'autre. D'autre part, ouvrages de spécialistes, ce ne sont pas des ouvrages de lecture rebutante, et si nos auditeurs trouvent dans ces ouvrages toutes les références, toute la compétence scientifique qu'ils peuvent désirer, qu'ils s'attendent en même temps à une lecture, sinon aisée, du moins agréable. Je n'ai donc pas pu rassembler tous les auteurs, je ne pourrais même pas, et ceux qui ne sont pas là voudront bien m'en excuser, tous les nommer à ce micro. J'ai bien entendu autour de moi les deux responsables de ces ouvrages et avec eux deux autres des collaborateurs, l'un pour la Grèce et l'autre pour Rome. Donc, les hellénistes sont ce matin Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, directeurs d'études à l'école des hautes études, et les latinistes ou les romains sont Jean-Paul Brisson, professeur à l'université de Paris-Nanterre, et Claude Nicolet, professeur à la Sorbonne. Je ne veux pas retarder davantage l'ouverture de ce débat qui est donc consacré au problème de la guerre dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, et puisque ces ouvrages sont nés au sein du Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes de l'École des hautes études, je voudrais demander à Jean-Pierre Vernant, qui a la principale responsabilité dans ce centre, de nous dire comment sont nés ces ouvrages. Jean-Pierre Vernant.
Bien, écoutez, dans ce titre un peu pompeux et compliqué, Centre de recherche comparée sur les sociétés anciennes, il y a deux mots qui sont des mots clés, comparée et ancienne. Nous sommes une équipe de recherche qui groupe pour l'essentiel des hellénistes et des spécialistes de la Rome ancienne. Mais notre ambition est de ne pas rester enfermé dans le cadre d'une civilisation ou d'une époque très précise, et nous pensons que les problèmes que nous avons successivement placés à l'ordre du jour de nos études devait être chaque fois confronté avec ce que pouvaient nous apporter des spécialistes des grandes civilisations classiques autres que la Grèce et que Rome, autres que l'Europe. Nous voulions échapper à ce qu'on appelle aujourd'hui l'européocentrisme. Pour prendre l'exemple de cette enquête, nous avons considéré qu'une des questions essentielles que l'historien devait se poser aujourd'hui, c'était les problèmes de la guerre. Nous les avons envisagés en Grèce et à Rome, mais pour établir le cadre dans lequel cette étude devait être poursuivie, nous avons pensé qu'une enquête préliminaire comparative était nécessaire. Et c'est pourquoi nous avons demandé à des représentants de civilisations différentes, aussi différentes que la Chine pré-impériale, les Assyriens, les Hittites, l'ancien Israël, l'Arabie pré-islamique, de nous présenter la façon dont, à leurs yeux, se posait le problème. Et c'est à partir de cette étude comparative préliminaire que nous avons alors dressé le plan de notre enquête dans ces secteurs précis. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que peut-être avons-nous tendance à penser que la guerre est un phénomène simple et universel. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien. La guerre est un fait humain qui, comme la plupart des autres faits humains, comporte une énorme part d'arbitraire. D'abord, il y a des sociétés qui ne connaissent pas la guerre. Et ce que la comparaison montrait d'emblée, si je peux dire d'entrée de jeu, c'est que non seulement les institutions guerrières sont différentes dans les diverses sociétés, que plus profondément, la place et la signification de la guerre dans une civilisation peut varier profondément. Que la fonction de la guerre, le rôle qu'elle remplit, la représentation que se font les membres de cette société peuvent être profondément différents.
Oui, je crois que vous venez très bien de définir l'ensemble des motivations et de montrer l'ampleur et la profondeur des questions que vous vous êtes posées et que vous exposez dans ces deux ouvrages. Et je voudrais tout de suite vous poser une question. Au fond, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons dans la première partie de ce débat envisager quelques-uns des problèmes communs que pose la guerre quand on étudie ces diverses sociétés, et en particulier la Grèce ancienne et Rome. Je dis bien problème commun et non pas aspect commun, car je pense que vous tiendrez autant à souligner les différences que les éventuelles ressemblances que présentent l'histoire grecque et l'histoire romaine. D'ailleurs, l'une et l'autre, elles-mêmes, très diversifiées, je pense, selon les époques, que donc montrer leurs ressemblances. Alors, la première question que je me pose, vous venez de montrer, Jean-Pierre Vernant, que l'une des principales directions de votre recherche et de votre réflexion a été, au fond, sociologique. Sociologique, et par conséquent, est-ce que vous avez accordé un intérêt spécial au problème des rapports entre la guerre et les structures sociales, et en particulier, est-ce que je peux vous demander, est-ce que il y a dans la Grèce, est-ce qu'il y a à Rome, mais surtout dans la Grèce, une catégorie sociale qui est spécifiquement militaire? Y a-t-il une classe sociale qui accapare la fonction guerrière d'une part, et d'autre part, au niveau de l'organisation militaire, avons-nous affaire le plus souvent à des spécialistes, à des armées de métier?
Écoutez, je répondrai seulement pour la Grèce, et déjà c'est assez difficile, parce que un des fils directeurs de notre recherche a été précisément de montrer comment on ne peut comprendre le statut de la guerre et le statut du guerrier à l'époque classique, dans la cité grecque, disons du 5e siècle, si vous voulez, qu'en suivant une histoire où, au départ, ce qu'on rencontre, c'est une classe de guerriers spécialisés dont la place dans la société est décisive, qui n'est peut-être pas la première, au moins dans le monde mycénien, mais qui joue un rôle fondamental.
Pierre Villanaké. Pardon, Jean-Pierre Vernant. Au départ, et si je puis me permettre de compléter, à l'arrivée, car nous avons, à partir du IVe siècle, de nouveau des guerriers qui sont des guerriers professionnels, dont le statut est totalement différent de ceux que tu évoquais à l'instant, du guerrier de l'époque archaïque, des guerriers professionnels qui contribuent à détruire, en quelque sorte, le système politico-social de la Grèce, et c'est en somme entre les deux, entre ces deux mondes, le monde du IVe siècle et hellénistique d'un côté, le monde archaïque et bien au-delà de l'époque archaïque, le monde mycénien de l'autre, que se situe l'acmé de la civilisation grecque caractérisée par le soldat citoyen.
Bien sûr, le fil directeur que j'évoquais tout à l'heure, c'est précisément ce gros problème. Comment est arrivé à se constituer un type de société où, au fond, il y a entre la guerre et le politique non seulement une continuité, mais une sorte de fusion complète. C'est-à-dire que c'est le même homme, les mêmes qualités qui font de quelqu'un un citoyen et un soldat. Alors, nous avons là un état qui nous paraît définir ce qu'a été la vie sociale de la Grèce dans le cadre de la police, de la cité-État, mais en même temps, cet équilibre qui définit ce qui est à nos yeux l'essence même de la vie politique et militaire à cette époque, cet équilibre est instable et il a été réalisé à partir de quelque chose d'autre qui était d'une classe de guerriers. Et il aboutit aussi, lorsque cet équilibre est rompu, à quelque chose de profondément différent, et qui est une fonction militaire spécialisée, avec, au moins en partie, une armée de métier.
Mais dans l'intervalle, au fond, tout homme est un guerrier. Avec toutefois, me semble-t-il, au moins une importante exception, les esclaves. Pierre Villanaké.
Non pas tout homme, effectivement, puisque les esclaves ne sont pas guerriers, ou plus exactement, un esclave ne peut pas devenir guerrier sans être affranchi. Ceci vaut pour Athènes. Pour Sparte, le cas est légèrement différent, puisque même les personnages que nous appelons d'ailleurs d'un terme équivoque, les esclaves, participent à la guerre. mais dans le modèle classique, c'est-à-dire dans celui d'Athènes. Il y a identité profonde, effectivement, entre la vocation à la citoyenneté et la vocation au service militaire. C'est une seule et même chose.
Messieurs les Romains, si j'ose dire, je me tourne maintenant vers vous, et spécialement vers Jean-Paul Brisson, pour vous demander si le schéma que viennent de définir les hellénistes s'applique aussi à Rome, c'est-à-dire si l'histoire romaine comprendrait une grande phase de quasi-identité entre le citoyen et le guerrier, phase encadrée par une période archaïque plus ou moins dominée par une aristocratie militaire et aboutissant à une période plus récente, disons la période impériale, où une armée de métiers et à nouveau des spécialistes de la guerre jouent un rôle de premier plan dans l'ensemble de la vie politique et sociale. Jean-Paul Brisson, est-ce que ce modèle vaut aussi pour Rome ?
Dans une certaine mesure, oui. Il est certain que dans la Rome classique, disons, du 3e et du 2e siècle avant notre ère, tout citoyen est en même temps appelé à servir dans l'armée et même obligé, pendant une certaine période de sa vie, à consacrer un certain nombre d'années de service à l'armée. Toutefois, je crois qu'il faut rectifier peut-être ici deux choses. L'une, c'est que il y a une notion de classe d'âge qui reste extrêmement sensible à Rome, puisque les obligations du service s'arrêtent avec un âge assez déterminé, de 46 ans. Et d'autre part, il faut tenir compte ici des structures qui se sont introduites à une date difficile à déterminer, mais enfin qu'on peut situer vers la fin du 3e siècle, les structures censitaires qui font qu'en réalité, si en principe tout citoyen d'un certain âge est appelé à être en même temps soldat, ce n'est pas vrai dans la pratique pour tous les citoyens. Il y a un certain nombre de citoyens que l'on considère comme doués de fortune trop minime pour qu'ils aient intérêt à les défendre et que par conséquent on évite d'appeler au service militaire.
Oui, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé par rapport à Rome, c'est que précisément à Athènes, il n'y a pas de prolétaires. C'est aux prolétaires que tu faisais allusion, je pense, essentiellement.
Bien entendu.
À Rome, il en est ainsi. À Athènes, on a trouvé un moyen d'intégrer.
On les fait servir dans la flotte.
Voilà.
À Rome, il n'y a pas de flotte. Quand tu as parlé d'une aristocratie militaire au début, peut-être j'aimerais avoir là l'avis de Claude Nicolet. Je pense qu'il est plus...
Eh bien, justement, moi, je crois que si, en gros, le schéma qu'a montré Jean-Pierre Vernant est valable aussi pour Rome, il y a tout de même, d'une part, tant d'obscurité dans ce qu'on appelle les âges obscurs ou les âges anciens pour Rome, et d'autre part, tant de différences à l'autre bout de l'évolution entre l'armée de métier, bien sûr, de l'époque impériale et les armées de métiers ou de mercenaires de l'époque hellénistique ancienne ou tardive dans le monde grec, que les différences me paraissent quand même plus grandes que les ressemblances. Et si vous permettez, je m'explique en deux secondes. D'abord, à l'origine, est-ce qu'il y avait à l'origine, à Rome, une classe militaire spécialisée et, en l'occurrence, on pense toujours à une aristocratie militaire. Et quand on pense à une aristocratie à Rome, on pense aux patriciens. Eh bien, il n'est pas sûr du tout que le patriciat ait eu, aux origines de la cité romaine, en quelque sorte le monopole du service militaire. Il n'est même pas sûr, ce qui est plus surprenant peut-être, que le patriciat ait été, par exemple, spécialisé dans une certaine forme d'action militaire qui est en général liée à une forme de prééminence sociale, je veux dire le combat à cheval. Eh bien, on a soutenu, on a cru pouvoir soutenir, par exemple, que le patriciat pouvait être aux origines identifié avec une classe militaire servant à cheval. Mais, en tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est que l'image que les Romains ont voulu se former de leurs origines est entièrement différente et qu'ils ont toujours fortement insisté sur cette idée que même les plébéiens étaient, dès l'origine, des gens qui participaient à la vie militaire de la cité. Deuxièmement, j'abonderai tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Jean-Paul Brisson. À Rome, il y a une identification entre les cadres civiques et l'organisation militaire de la cité qui est poussée peut-être encore plus loin qu'en Grèce pour la période des cités classiques qu'évoquaient les hellénistes présents, en ce sens que nous avons cette organisation qui porte le nom de Kensus, le sens, qui est ouvertement une organisation à la fois civique et militaire. Le citoyen doit avoir sur le champ de bataille la même place qu'il tient dans la vie politique de la cité grâce à un système électoral beaucoup plus compartimenté, beaucoup plus hiérarchisé que du moins dans les cités démocratiques grecques. Et je serai peut-être un petit peu plus optimiste que Jean-Paul Brisson. Je ferai peut-être remonter plus haut qu'au IIIe siècle l'origine de ce système censitaire. Je pense qu'on peut le fixer sans trop de risque d'erreur au Ve siècle avant Jésus-Christ, mais il fonctionne. Et il fonctionne à peu près tel quel, avec des amodiations légères, jusqu'à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque on finit par se décider, tout comme en Grèce, et là je rejoins la remarque que faisait Pierre Vidal-Naquet, à autoriser les gens qui jusqu'alors étaient exclus du service militaire comme de toute participation réelle à la vie politique de la cité, je veux dire les prolétarii ou les capitae quensi, ceux qui n'avaient pas d'argent, ceux qui n'avaient pas de fortune, on finit par les autoriser à participer à la vie militaire. J'ajoute tout de suite que si on les y autorise, c'est parce qu'à ce moment-là, la fonction militaire ou la vie militaire de Rome a déjà subi d'énormes changements et que nous sommes en marche vers une armée de métier qui est déjà presque pré-impériale.
Pierre Vidal-Naquet, j'ai l'impression que ce que vient de dire Claude Nicollet appelle de votre part, je ne sais si ce sont des réponses, des réactions, des assentiments.
Des différences, en tous les cas, qu'il importe de souligner. Car Nicollet vient de nous dire, en somme, on a permis aux prolétaires de participer. Mais on leur a permis à un niveau, somme toute, assez modeste, et dans le cadre de l'armée de terre essentiellement. En Grèce, du moins à Athènes, la situation est tout à fait différente. Bien entendu, on a connu aussi cette intégration en cas d'urgence des classes pauvres à l'intérieur de l'armée hoplitique. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Au moment de Marathon, en 490, Athènes mobilise toutes ses troupes terrestres, y compris, semble-t-il, un certain nombre d'esclaves. On aboutit à une armée d'environ 10 000 hommes. À Salamine, 10 ans après, en 480, Athènes mobilise également toutes ses troupes, mais elle les mobilise sur mer. Et on aboutit à une flotte comprenant de 30 à 40 000 marins. Par conséquent, l'utilisation de la flotte a été, pour Athènes, un instrument d'intégration citoyenne infiniment plus puissant que l'utilisation des prolétaires à l'intérieur de l'armée romaine. Et j'ajoute que sur le plan idéologique, les conséquences ont été considérables, car tout au long du Ve siècle, on voit s'opposer une idéologie des hoplites et une idéologie des marins. La première étant symbolisée par Marathon, la seconde étant symbolisée par par Salamine. Il y a des détails tout à fait amusants dans ce domaine. Je ne crois pas que rien de tel existe à Rome.
Tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que cette intégration des prolétaires dont je parlais, c'est-à-dire la fameuse réforme de Caius Marius, dont on sait maintenant qu'elle n'a pas été d'ailleurs une réforme brutale et qu'elle n'a fait que clore une évolution qui datait au moins de trois quarts de siècle, s'est produite à un moment où précisément les cadres civiques de la cité, je veux dire la participation des citoyens à la vie politique, subissaient une restriction, une crise qui avait de multiples causes, mais dont la principale était certainement que la cité romaine avait pris des dimensions, bien que se considérant toujours comme une cité classique, qui la transformait en quelque chose d'autre, et que pratiquement 20 ans après la réforme de Marius, cette cité romaine sera à l'échelle de ce qui dans l'Antiquité est presque un continent, c'est-à-dire l'Italie péninsulaire, et qu'il y a donc en même temps des problèmes d'intégration d'autres populations que celles de la Rome primitive, du noyau primitif romain, qui se sont posées. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi, dans la Rome de la conquête, la Rome classique des 4e, 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, eh bien on fait en sorte que les prolétaires, les gens sans argent, soient, sinon en droit, du moins en fait, exclus à la fois des devoirs civiques, parmi lesquels le devoir militaire, et des droits civiques électoraux, mais parmi lesquels aussi les bénéfices de la participation à la guerre.
Merci messieurs d'avoir au fond bien délimité cette identité entre le citoyen et le guerrier dans la Grèce et à Rome. J'aimerais maintenant que des structures sociales, nous nous tournions vers les idéologies, les mentalités, les croyances. Et je voudrais vous demander si dans le domaine des attitudes à l'égard de la guerre et de la paix, et en particulier si dans le domaine des rapports entre la guerre et la religion, vous retrouvez à Rome et dans la Grèce les mêmes problèmes communs et en même temps de telles différences d'attitude. Mais je crois que Jean-Pierre Vernant avait encore une remarque à faire à propos de ce qui vient d'être dit. Il pourra donc peut-être faire cette remarque avant d'introduire la nouvelle dimension de notre débat, Jean-Pierre Vernant.
Non, parce que la remarque que je voulais faire se situait dans le prolongement de ce qui avait été dit par Vidal-Naquet et par Nicolet, et par conséquent se place dans la rubrique que vous indiquez maintenant. Je reviendrai tout de suite, mais alors j'aborde ces problèmes-là de façon plus générale. Il me semble qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord, en liaison avec les problèmes de structure sociale qui ont été évoqués, la question de savoir dans quelle mesure les dieux guerriers, en Grèce et à Rome, ont un aspect fonctionnel ou n'ont pas un aspect fonctionnel. C'est-à-dire que dans la mesure où nous avons une classe de guerriers qui est vouée à l'activité guerrière et qui subit à cet effet un dressage particulier, une sorte de drill, comme diraient les Anglais, on peut penser qu'ils ont aussi leurs divinités qui leur sont réservées et dont la sphère d'action est strictement limitée au domaine belliqueux. Et ce serait par exemple vrai sans doute pour un dieu comme Arès, qui est spécifiquement, peut-être moins d'ailleurs le dieu de la guerre que le dieu de la mêlée, le dieu des combats. Au contraire, une divinité comme Athéna, qui est une divinité guerrière, est en même temps une divinité politique. Et son domaine d'action est à la fois beaucoup plus vaste et organisé de façon beaucoup plus complexe. Et en ce sens, elle implique aussi une intégration du guerrier plus poussée dans le domaine de la vie totale du groupe.
si de la mythologie, ou plus exactement, de l'aspect fonctionnel des dieux de la Grèce, je me tourne maintenant vers Rome, je voudrais demander à Jean-Paul Brisson si les dieux romains de la guerre, et en particulier le principal, je crois, et le plus connu d'entre eux, Mars, présentent des aspects comparables à ceux que Jean-Pierre Vernant vient d'indiquer pour Arès et Athéna. Jean-Paul Brisson.
Ben, nous sommes là devant un phénomène qui est assez curieux, c'est que comme Nicolas l'a souligné tout à l'heure, n'est-ce pas, dans la Rome classique, les cadres civiques et les cadres militaires coïncident complètement. Et malgré tout, la divinité qui préside à l'activité guerrière, c'est-à-dire Mars, reste une divinité essentiellement fonctionnelle. Nous n'avons là pas malheureusement le temps de nous étendre beaucoup, n'est-ce pas, mais il est très curieux de constater que, alors que dans la Rome archaïque, les principales divinités semblent avoir été des divinités essentiellement fonctionnelles, recouvrant les principaux besoins d'une société en formation, Mars seul a gardé cet aspect. Ses compagnons, si je peux dire, de la première période, voyant beaucoup plus se dissoudre ou s'étendre, se transformer leurs aspects fonctionnels primitifs.
D'ailleurs, je me permets de rappeler aux auditeurs fidèles que l'année dernière, une émission consacrée aux derniers travaux de Georges Dumézil a permis de mettre en valeur le problème de la fonction guerrière dans diverses sociétés et diverses civilisations, et que, bien entendu, Georges Dumézil trouvait plus nettement cette fonction guerrière à Rome que en Grèce, où elle avait subi des évolutions, des déformations plus subtiles, semble-t-il, que à Rome. Pierre Vidal-Naquet.
Mais je crois que cette fonction guerrière à Rome est essentiellement, et ça Dumézil a bien précisé ses idées là-dessus dans ses derniers ouvrages, cette fonction guerrière est essentiellement idéologique. N'est-ce pas ? Qu'il y ait à Rome un dieu fonctionnel de la guerre, même dans la Rome classique, ne signifie absolument pas qu'il y ait une classe fonctionnelle de guerriers.
Absolument.
Ce que signifie Mars, c'est que la guerre est un aspect particulier de la vie sociale, auxquels sont appelés à participer à des degrés divers tous les citoyens, enfin dans la mesure où nous l'avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est un aspect, une fonction de la société, mais pas d'une classe.
Après cette importante précision de Jean-Paul Brisson, et je donne la parole à Pierre Vidal-Naquet.
Ce qui est tout à fait saisissant dans la mythologie grecque de la guerre, c'est qu'elle connaît bien des guerriers professionnels. Mais ces guerriers se détruisent eux-mêmes. On le voit déjà chez Hésiode, on le voit aussi dans toute une série de légendes, dont la plus typique me paraît être celle des Spartes à Thèbes. Les Spartes sont des guerriers qui naissent du sol, ils sont semés avec les dents du dragon, tués par Calmos, le fondateur de la ville. À peine sortent-ils de terre, armés de pied en cap, qu'ils commencent à s'entretuer, et il en reste, je crois, 5, qui fondent d'ailleurs les principales familles de Thèbes. Mais c'est ce trait qui est fondamental. Le guerrier apparaît dans la mythologie, mais c'est pour se détruire lui-même.
Jean-Pierre Vernant.
Oui, alors là, dans le prolongement de ce que dit très justement Pierre Vidal-Naquet, ces confréries de guerriers, qui sont des confréries de guerriers spécialisées, dans le mythe, soit ils se détruisent les uns les autres, marquant qu'ils sont, que leur vocation guerrière est une vocation de carnage et de destruction, soit, lors même qu'on les présente comme des exemples de valeur, de courage et de vertu, ils représentent une zone de la vie qui est toujours considérée comme d'une certaine façon dangereuse. Il y a toujours une ambiguïté, il y a toujours une charge négative. Et ce qui va se produire précisément, lorsque la cité aura fait sa réforme politique, c'est que l'ancienne image du guerrier, avec toutes les valeurs positives qu'elle représentait, est intégrée, c'est maintenant la figure du citoyen qui, si je peux dire, profite de cet éclat qui avait été projeté sur la figure du guerrier professionnel, mais en même temps, toutes les valeurs négatives sont au contraire expulsées dans la mesure où le guerrier n'est plus en dehors de la vie sociale, mais qu'il est partie intégrante de cette vie sociale.
Ce qui m'a beaucoup frappé, en effet, dans ces deux ouvrages, c'est la façon dont les collaborateurs, et en particulier les deux meneurs de jeu dans leur introduction, ont su mettre en valeur ces efforts constants d'intégration par les cités grecques et par Rome de la fonction guerrière et de ceux qui les représentaient en une sorte de dialectique constante qui, d'une part, accordait à cette fonction et à ses représentants une place considérable dans la vie matérielle, la vie politique, la vie idéologique, mais avec de l'autre côté, une certaine méfiance, prenant soit les aspects d'autodestruction mythique que vous venez d'évoquer, Jean-Pierre Vernant, soit à Rome, me semble-t-il, notamment la façon dont l'historiographie présentait des personnages comme le personnage de Coriolan, comme le personnage de l'aristocrate militaire qui, après avoir sauvé Rome, s'apprête, en voulant outrepasser justement sa fonction et la puissance, presque à la détruire. Claude Nicolet.
Je crois que ce que vous dites est parfaitement exact, à ceci près que l'exemple que vous avez choisi, celui de Coriolan, a peut-être une autre explication. C'est plutôt une projection de phénomènes plus récents sur le passé qu'une résurgence du passé. Moi, je prendrais plutôt l'exemple
des trois typique et mythique
des 306 Fabius ou d'Horace. D'Horace, le guerrier qu'on est obligé de désacraliser par toute une série de rites, parce que ce caractère de fureur sacrée de la bataille doit être expurgé de la cité. Mais alors, ce qui me paraît plus important pour Rome, peut-être, c'est un phénomène un petit peu différent de ce qu'on a évoqué ici. À propos de l'intégration de ces guerriers spécialisés. C'est la place que joue dans Rome la notion de discipline militaire. Et ceci, dans l'historiographie romaine, projeté sur les origines même de Rome. L'effort que fait Rome, ce n'est pas d'aboutir à la destruction de cette fureur sacrée, c'est sur le champ de bataille même de la repousser et de l'exclure du champ de bataille. Et il est tout à fait typique de voir quelle est l'idéologie militaire qui s'est développée à l'époque classique, qui est encore plus hoplitique peut-être que dans les cités grecques. En ce sens, il y a un texte magnifique de Polybe qui nous l'explique, que ce qu'on attend du soldat romain et surtout des cadres de l'armée romaine, c'est-à-dire des centurions, ce n'est pas au fond qu'il soit un guerrier exceptionnel animé d'un courage remarquable, c'est qu'il obéisse parfaitement aux ordres tactiques qui lui sont donnés. Et ceci est un thème constant de la tradition annalistique romaine, et on peut voir jusque dans des phénomènes très historiques, très modernes à l'époque de César, la désapprobation d'un impérator comme César, qui pourtant favorisait dans sa propre armée certainement une certaine idéologie des officiers de métier ou des sous-officiers de métier, et qui les a favorisés, lorsque, pour une fois, ces officiers de métier, je pense au fameux assaut de Gergovie, dépassent les ordres qu'on leur a donnés, et que c'est sur eux qu'on fait tomber, sans trop vouloir naturellement les charger moralement, mais c'est sur eux de façon très claire qu'on fait tomber la responsabilité de l'échec, n'est-ce pas ? Et ça me paraît très important pour Rome.
Eh bien, messieurs, je crois que nous aimerions poursuivre avec vous ce débat qui montre toute la richesse des problèmes traités par ces deux ouvrages. Mais si nous voulons conserver un peu de temps pour parler plus en détail de l'évolution des problèmes de la guerre, dans la Grèce ancienne d'abord, à Rome ensuite, je crois qu'il nous faut maintenant nous contenter de lire peut-être quelques textes qui vont nous introduire à travers les documents dans certains de ces aspects que vous venez d'évoquer. Je pense surtout à des aspects anciens. C'est ainsi que un extrait de Tite-Live, au 8e livre des histoires, que je vais me permettre de lire, montre un aspect extrêmement archaïque de la Grèce à Rome. De là, l'armée victorieuse fut conduite à Satricum contre les Antiates. Il y eut là, avec un grand carnage de part et d'autre, un terrible combat. Un orage ayant séparé les combattants, avant que l'espoir penchât d'un côté, les Romains, nullement fatigués d'une lutte si douteuse, se préparent au combat pour le lendemain. Mais les Volsques, dénombrant quels hommes ils avaient perdus dans la bataille, n'avaient pas du tout le même cœur à reprendre la lutte. Pendant la nuit, comme des vaincus, en colonne effrayée, abandonnant leurs blessés et une partie de leurs bagages, ils partirent pour Antium. Dans notre débat qui réunit ce matin Jean-Paul Brisson, Claude Nicolet, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, autour des deux beaux ouvrages sur les problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne et à Rome, récemment parus aux éditions Mouton, nous avons dans une première partie évoqué certains des problèmes communs qui ont été à la base de la réflexion des collaborateurs de ces deux ouvrages. Je pense, messieurs, qu'il est temps d'en venir maintenant à évoquer l'évolution des problèmes et des aspects de la guerre, d'abord, si vous le voulez bien, dans la Grèce ancienne et ensuite à Rome. C'est dire que cette seconde partie de notre débat, qui va être consacrée à la Grèce ancienne, va surtout mettre en cause Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. Et je voudrais demander à Jean-Pierre Vernant d'introduire l'étude de cette évolution des problèmes de la guerre dans la Grèce par une évocation de ce qu'elle a été dans la Grèce archaïque. Jean-Pierre Vernant.
Eh bien, nous avons dit que l'évolution nous conduisait de guerriers professionnels ou de groupes voués à la guerre aux soldats citoyens. Et en même temps, cette évolution se double d'une autre. Elle nous conduit d'un usage de la charrie à une forme de combat que nous connaissons, qui est un combat de fantassins lourdement armé, et qui est le combat de type hoplitique. Jusqu'à une date récente, ce qu'on appelait l'archaïsme grec, du point de vue de la guerre, nous en trouvions le témoignage dans les textes homériques. Nous pouvons aujourd'hui remonter plus haut, à la période mycénienne, et dans le volume dont nous parlons en ce moment, un des meilleurs spécialistes du mycénien, M. Lejeune, qui a traité ce problème.
Et Courbin, si tu me permets.
Et Courbin, sur le plan de l'archéologie, c'est-à-dire Courbin a insisté sur les témoignages archéologiques dont nous disposons concernant l'armement depuis l'époque mycénienne jusqu'à l'époque archaïque. Mais en ce qui concerne les inscriptions en mycénien, en linéaire B dont nous disposons, le bilan que dresse Lejeune est pour nous décisif, car il montre qu'il devait exister dans le cadre des états mycéniens, dans le cadre du palais, une charrie qui recevait du roi en dotation réglementaire chaque chef d'équipage un char, deux chevaux et deux pièces de cuirasse. Nous avons là quelque chose d'extrêmement intéressant parce que si on se livre, comme nous l'avons fait, à une étude comparée de ces sociétés de type palatial où existe une charrie, on voit qu'il y a un rapport étroit entre une technique militaire, une certaine forme d'organisation du groupe des guerriers et des formes sociales particulières. pour qu'il y ait une charrerie, pour que cette charrerie soit employée comme une force de rupture, c'est-à-dire soit engagée en bloc, il est nécessaire qu'il y ait un État centralisé, dirigeant au fond l'économie, et ayant la possibilité de faire construire, de faire stocker, de distribuer et de réparer un matériel tout de même aussi délicat et coûteux que cet ensemble de chars.
Je me permets ici d'interrompre une seconde de Jean-Pierre Vernot pour rappeler à nos auditeurs que nous avons évoqué ces problèmes également l'année dernière dans une autre émission, celle consacrée à l'ouvrage de Jean Dehé sur les civilisations du Moyen-Orient ancien, où nous avions retrouvé en Assyrie et à Babylone ce problème de la charrerie militaire liée à une certaine structure sociale et surtout à une certaine structure monarchique.
Alors, dans ces sociétés, je crois que le cas mycénien n'est qu'un cas particulier, nous avons des hommes, des guerriers qui sont les hommes des chars. Et ceci implique non seulement certaines formes de combat, mais en même temps un certain nombre de privilèges sociaux, parce que le char est en même temps un objet prestigieux, un objet de prix, un objet noble, le char et les chevaux. On peut penser que dans les sociétés où existait déjà une classe guerrière spécialisée, la charrerie a renforcé cette spécialisation, et que là où il n'en existait pas, la charrerie a contribué à en former une. Mais ce qui est avéré aussi, c'est que dans ces systèmes royaux, palatiaux, les hommes des chars sont sous la dépendance étroite du palais, puisque les chars et l'équipement militaire leur est conféré en dotation par le palais qui tient des archives où sont consignés tout ce qui a été donné aux hommes des chars. Or, lorsque nous avons l'écroulement de la civilisation mycénienne, nous retrouvons bien, cette fois alors, dans les textes homériques, des hommes qui sont encore des hommes des chars et qui sont les chefs de l'armée. Mais toute une série de constatations s'impose. Premièrement, c'est que, en fait, il n'y a plus véritablement une charrerie du point de vue des techniques militaires. C'est-à-dire que nous avons quelque chose qui est un point de rupture. Parce que les guerriers homériques ne combattent, pour ainsi dire, jamais en char, et en tout cas ne chargent jamais en char. Le char est simplement le moyen de les amener sur le champ de bataille. Et ils combattent, comme tous les autres, à pied. Et en même temps que nous avons cette disparition d'une technique de combat, nous avons aussi un type d'organisation militaire qui est devenu très différent. Parce que les groupes de guerriers, de compagnons, dont l'assemblée constitue l'armée achéenne, ne sont plus soumis, comme devaient être les guerriers mycéniens, à un prince qui assure eux non seulement pouvoir militaire, mais même pouvoir économique, puisque c'est lui qui leur a distribué leur équipement. Désormais, chaque guerrier doit s'équiper lui-même, il est fier de ses chevaux, c'est lui qui a fait construire son char, et c'est lui aussi qui a fait forger ses armes et construit sa cuirasse. Par conséquent, nous sommes, malgré les apparences extérieures, dans un climat militaire et dans un contexte social qui est complètement différent. Nous sommes dans un contexte d'aristocratie guerrière et non plus du tout dans un système d'économie palatiale.
Eh bien, ceci encore, je m'excuse de faire tellement d'allusions à des émissions passées, nous rappelle l'émission que nous avions consacrée avec précisément Pierre Vidal-Naquet au livre de Finlay sur la société homérique paru chez Maspero. Et maintenant, c'est vers Pierre Vidal-Naquet que je me tourne pour lui demander de nous dire comment on est passé à la guerre dans la période à laquelle, me semble-t-il, les auteurs de cet ouvrage se sont le plus intéressés, c'est-à-dire la guerre politique, la guerre de la polis, de la cité grecque, la guerre des cités. Comment en est-on arrivé à ce nouveau type de guerre, ce nouveau type de guerrier au sein d'une nouvelle organisation sociale et politique. Pierre-Vidal-Nacquet.
Eh bien, on résume ce qui s'est passé d'un mot qui est équivoque, comme tant d'expressions analogues, celui de réforme politique. Et je dirais tout de suite qu'il s'agit sans aucun doute d'un des événements majeurs de notre histoire occidentale. Il suffit de remarquer que pendant près de 10 siècles, c'est l'infanterie lourde, l'infanterie qui sera celle des hoplites, mais qui sera aussi celle de la Légion, qui va être la reine des batailles. Et il faudra attendre, je crois, les combats et les victoires des Sassanides contre les Romains pour que de nouveau la cavalerie réapparaisse. Alors, la réforme politique, qu'est-ce que c'est? Sur le plan technique, très peu de choses. Dès l'époque mycénienne, il y avait des guerriers qui n'étaient pas très différents des hoplites. Seulement, la réforme politique, sur le plan technique, c'est simplement deux petites choses. Le fait que désormais, le guerrier qui tient son bouclier de la main gauche engage son bras dans ce qu'on appelle le porpax, qui enveloppe son bras à l'intérieur du bouclier et tient l'extrémité de ce bouclier avec une petite poignée que l'on appelle l'antilabée. Donc, trois fois rien. Mais ce trois fois rien est beaucoup de choses, puisque ce guerrier a un voisin, il a un voisin à sa droite, et il a un voisin à sa gauche, et que la ligne de front s'identifie en quelque sorte avec la ligne des boucliers. Vous comprenez donc par conséquent que cette réforme technique est en réalité le signe d'une réforme sociale. C'est l'intrusion dans la guerre de toute une série de gens qui n'y participaient pas. Petits propriétaires terriens, sans doute, qui défendent le sol de la cité dont ils sont citoyens. C'est cette intrusion que l'on peut dater d'environ les débuts du 7e siècle, d'après les témoignages archéologiques, mais qui est déjà évoquée indirectement par certains passages d'Homère. C'est cette intrusion qui est la réforme hoplitique. Et désormais, les combats seront des combats opposant des phalanges, phalanges d'hoplites, qui s'affrontent face à face, sans technicité exagérée. La guerre en Grèce et la bataille en Grèce, en somme, c'est l'affrontement de deux lignes de boucliers, les meilleures troupes étant, dans chaque cas, maintenues à droite, d'après un préjugé qui relève d'une explication sociologique, celui de la prééminence de la droite en général. Seulement, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, à travers ce modèle hoplitique, qui démarre sans doute à Sparte, qui va s'imposer pendant plusieurs siècles, il subsiste quelque chose d'autre. Il subsiste ce qu'on pourrait appeler un aspect noir de la guerre, un aspect qui n'est pas celui de l'affrontement de deux lignes, mais qui est celui de la ruse, celui de l'entreprise cachée, telle que l'a décrit Homère, par exemple, quand il nous raconte l'expédition de Dolon, armé d'un masque de loup, contre Diomède, et qui finit mal, puisque Dolon est tué par Diomède. Ceci est éclatant à Sparte. À Sparte, les futurs hoplites reçoivent une éducation bien curieuse. Cette éducation ne consiste pas du tout à les entraîner directement à leur métier d'hoplite, mais au contraire à en faire en quelque sorte des rampeurs de brousse, des combattants rusés, des combattants qui tuent dans l'ombre. Il semble bien que ce type de combat soit avant tout et essentiellement l'affaire des jeunes, et qu'il relève en quelque sorte d'une initiation guerrière. Mais si l'on voit les choses largement, il est absolument frappant de voir que cette technique rusée de la guerre, qui subsiste masquée pendant la période hoplitique, cette technique va ressurgir à partir du IVe siècle essentiellement et va entraîner à son tour des modifications dans la guerre des citoyens et dans la guerre surtout des mercenaires des cités.
Permettez-moi, Pierre Vidal-Naquet, de signaler que sur ces problèmes, vous avez récemment publié sur le chasseur noir et les origines de l'éphébie un très bel article dans la revue Annales, Économie, Société, Civilisation. Mais je voudrais maintenant demander à Jean-Pierre Vernon s'il est d'accord avec l'évocation que vient de faire Pierre Vidal-Naquet.
Je suis tout à fait d'accord pour signaler ce double aspect paradoxal de la guerre. Mais je crois que tout de même, il faut mettre l'accent sur le fait que la réforme hoplitique, la formation hoplitique, implique, est à la fois le signe d'une transformation sociale et entraîne des conséquences sur le plan institutionnel et sur le plan mental. Parce que dans le type de combat qui est attesté dans Homère, ce qui compte, c'est l'exploit individuel. Et l'exploit individuel accompli dans un état qui est un état de fureur guerrière. C'est le ménos. Au contraire, ce que le combat hoplitique façonne, c'est une mentalité égalitaire. Chacun doit rester à sa place. Et même s'il arrive à un guerrier particulièrement valeureux de sortir des rangs et de remporter la victoire, il est condamné. Il est condamné, comme c'est le cas, par exemple, par les Spartiates, parce que ce qui est décisif, c'est de garder le rang dans la formation collective. Et alors, nous voyons très bien ici ce que nous avions indiqué dans la première partie, les raisons pour lesquelles il peut y avoir, dans le cadre de la cité, intégration de l'idéal militaire dans le politique. C'est que le militaire lui-même a pris une texture, si je peux dire, qui est égalitaire. Dans le combat d'hoplite, chacun est exactement l'égal des autres, tout le monde occupe des positions symétriques. Et en ce sens, la cité elle-même peut être considérée comme une phalange d'hoplite, de même que la phalange d'hoplite, ce sont les structures de la cité qui sont présentées sur le champ de bataille.
Oui, au fond, ce qu'on pourrait appeler la réforme hoplitique, c'est au sens plein du mot l'apparition de l'uniforme.
Oui, on pourrait dire les choses comme ça, mais peut-être même pourrait-on encore aller plus loin et dire que cette intégration du militaire dans le civil se comprend parce que le militaire lui-même a pris cette valeur égalitaire, et peut-être n'est-ce pas le fait du hasard, on peut penser, et je pense pour ma part, que les notions d'égalité, de droit à la libre parole, disait Goria, n'auraient jamais pu voir le jour dans la cité antique si, d'abord, elles ne s'étaient pas développées dans un milieu aristocratique qui est le milieu guerrier. Au fond, c'est toute la cité elle-même qui se fait aristocratique en exigeant pour chaque citoyen ce droit à l'égalité qui définit d'abord les rapports propres à des aristocrates qui sont en même temps des guerriers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans la cité, même civile, même pacifique, on retrouve cet esprit d'agone, cet esprit d'affrontement et de rivalité, et on le retrouve à tous les niveaux. De sorte que c'est non seulement le militaire, si je peux dire, qui prend une forme égalitaire et civique, mais c'est la cité elle-même qui a une forme guerrière, parce que elle conçoit la solidarité et les liens entre les citoyens comme étant en même temps du ressort de quelque chose qui est la compétition, la rivalité et la lutte.
Et messieurs, je crois que nous vous suivrions volontiers longtemps sur ce terrain, sinon militaire, du moins scientifique, mais nous devons songer que nous devons aller encore à Rome. Il y a dans ce volume, encore de très nombreux aspects fort intéressants, fort importants, dont nous n'avons pas parlé ici, dont nous ne parlerons pas. Je songe par exemple à tout ce qui a été écrit sur les fortifications. Je songe au cas de Sparte qui a été évoqué, mais qui mériterait sans doute un développement comme il en a eu dans ce livre. Je pense aussi que nous devrions évoquer, plus que d'une phrase comme je vais le faire, la guerre à l'époque hellénistique, après cette époque politique, et comme l'a fait dans cet ouvrage, dans un important article, Pierre Lévêque. Cette guerre hellénistique où nous voyons maintenant la politique réservée au roi, la guerre aux mercenaires et apparaître une théologie de la victoire. Mais je vais demander à Pierre Vidal-Naquet de terminer cette partie grecque de notre débat, d'une part en formulant, je crois, une remarque qu'il a envie de faire, et d'autre part en introduisant le texte qui sera lu et qui est un texte de Démosthène. Pierre Vidal-Naquet.
Oui, je voulais faire justement deux remarques. La première, c'est que la guerre maritime est un facteur de différenciation presque aussi important d'une certaine manière que l'apparition des hoplites, pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas puisque je les ai évoquées tout à l'heure. La seconde est que lorsque le système se casse, c'est-à-dire essentiellement au IVe siècle, on voit véritablement la cité surprise, décontenancée devant les formes nouvelles de guerre introduites par des gens qui ont les moyens de faire la guerre d'une façon différente, et essentiellement il s'agit ici de Philippe de Macédoine, et c'est ce que montre admirablement le texte de la troisième philippique où Démosthène évoque sa stupeur devant l'abandon des pratiques anciennes de la guerre.
La dernière partie du débat que nous consacrons ce matin aux deux ouvrages « Problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne » sous la direction de Jean-Pierre Vernant et « Problèmes de la guerre à Rome » sous la direction de Jean-Paul Brisson, paru récemment aux éditions Mouton, débat qui groupe autour de notre micro Jean-Paul Brisson, Claude Nicolet, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. La dernière partie de notre débat va naturellement être consacrée à Rome, puisque dans une première partie, nous avons évoqué les problèmes communs à la Grèce et à Rome, et dans la seconde partie, quelques-uns des aspects essentiels de l'évolution des problèmes de la guerre dans la Grèce ancienne. Et je vais d'abord demander à Jean-Paul Brisson ce que nous pouvons savoir des aspects et des problèmes de la guerre à Rome à l'époque archaïque. Jean-Paul Brisson.
S'il y a des problèmes communs qui concernent la guerre à la fois en Grèce et à Rome, il n'est pas possible de suivre pour Rome le même schéma chronologique qui vient d'être suivi par Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet. Car en fait, sur la guerre à l'époque archaïque de Rome, c'est-à-dire, disons, jusqu'au milieu du IVe siècle environ, nous ne savons rien de façon directe. Ce que nous savons nous est raconté par des historiens, des analystes, dont les plus anciens remontent au IIIe siècle avant notre ère, et qui ont projeté sur l'histoire antérieure de leur cité des modèles qui étaient des modèles contemporains. Ceci s'explique de façon très simple, dans la mesure où la Rome du IIIe siècle s'est trouvée engagée dans toute une opération de conquête qui, après lui avoir assuré le contrôle de l'Italie centrale puis de l'Italie du Sud, l'a fait confronter à des puissances comme Carthage, puis les royaumes hellénistiques de Macédoine, de Syrie, etc. Il fallait donc que les Romains qui étaient engagés dans cette série de conquêtes successives et toujours extensives se donnent à eux-mêmes et donnent aux autres une espèce de justification en se créant un passé analogue. Par conséquent, la guerre archaïque, nous ne savons pas très bien ce qu'elle a été. Parce que, à partir du moment où les Romains nous parlent de leur façon de faire la guerre, il nous parle d'une guerre qui est une guerre d'intégration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, dans la Rome du IIIe siècle, d'une sorte d'agone entre des cités rivales. Il s'agit d'une guerre qui doit déboucher sur une modification politique des rapports entre les belligérants. La Rome du IIIe siècle, et des siècles suivants a fortiori, est une Rome qui termine une guerre par un traité en général dit inégal, qui consacre, sous le nom d'alliance, ou sous des noms assez variés d'ailleurs, de façon très empirique, comme l'a souligné M. Heurgon dans l'article qu'il a consacré à ce sujet dans notre volume, sous ce nom d'alliance ou des noms avoisinants, ou ce nom d'amitié, Rome consacre en réalité la suggestion des vaincus. Et ordinairement ne s'arrête de faire la guerre que quand elle est arrivée à ce terme. Par conséquent, s'il y a eu dans l'Italie du 6e ou du 5e siècle avant notre ère, ce qui est probable, des conflits entre cités ou surtout entre ligues de cités, ligue latine, ligue sabine, ligue samnite, etc. S'il y a eu des conflits qui ont pu être analogues à ceux qui existaient entre les cités grecques à la même époque, c'est-à-dire qui ne visaient pas nécessairement à une fusion des peuples entre eux, c'est tout de même cette image que les Romains ont voulu nous donner. Et le IIIe siècle, au moment, le moment donc où se forme cette image de la guerre archaïque à Rome, dont nous sommes tributaires, va être aussi le moment où Rome va être obligée de modifier, en fonction même des affrontements auxquels ses conquêtes la conduisent, de modifier sa conception et ses méthodes de la guerre. Car si dans les affrontements avec les Samnites ou avec les cités grecques de l'Italie du Sud, elle pouvait se trouver au niveau de combattants qui pratiquaient les mêmes techniques qu'elle, c'est-à-dire avec des cités dont vraisemblablement les cadres civiques et les cadres militaires devaient également coïncider, il n'en va plus de même à partir du moment où déjà avec Pyrrhus en 280, puis surtout avec Carthage et essentiellement avec Hannibal, Rome se trouve confrontée à des armées de type hellénistique, c'est-à-dire à des armées de mercenaires professionnels. On sait assez quel désastre a entraîné pour l'armée romaine, armée composée de citoyens dont le commandement changeait pratiquement chaque année, quel désastre a entraîné la rencontre, les premières rencontres avec l'armée d'Hannibal, composée de techniciens, mercenaires dont c'était le métier de faire la guerre, avec un commandement constant, donc une unité de vue, et que ce soit sur la Trébie, à Trasimène ou à Cannes, les pertes ont été extrêmement lourdes. Et normalement, Rome devait s'avouer vaincue, c'est bien ce sur quoi comptait Hannibal. Rome ne s'est pas avouée vaincue et, au fond, a refusé de jouer le jeu qui lui était proposé et qui était le jeu normal à l'époque. Elle a refusé de jouer le jeu, soit en se dérobant systématiquement, comme l'a fait en particulier le célèbre Fabius le Temporisateur, en 217-216, en se dérobant systématiquement à la bataille rangée, soit en refusant, comme après Cannes, de payer rançon pour les prisonniers faits par Hannibal. Ce qui mettait l'ennemi dans une situation doublement difficile, parce que si l'ennemi n'avait pas l'occasion de livrer une bataille rangée, il ne pouvait pas assurer une victoire, il ne pouvait pas se prévaloir d'une victoire, et si on refusait de payer rançon pour les prisonniers, il n'avait plus de quoi, n'est-ce pas, assurer ses fournitures de guerre. Et Tite-Live nous a gardé le récit vraisemblablement refait, mais très intéressant du point de vue mentalité, d'une célèbre séance au Sénat de Carthage après la victoire d'Hannibal à Cannes, n'est-ce pas, où Hannibal est obligé de demander des subsides parce que justement les Romains n'ont pas payé rançon, et ses adversaires au Sénat de Carthage lui disent: mais alors à quoi ça te sert d'avoir gagné une bataille si tu n'es pas fichu en ayant gagné une bataille d'avoir de quoi payer tes soldats et de quoi les nourrir?
Oui, je crois que, Jean-Paul Brisson, vous venez bien de nous montrer comment, au sein des guerres puniques, basculent tout d'un coup les aspects de la guerre à Rome. Et nous allons maintenant, je crois, entrer dans une phase à laquelle on a donné traditionnellement l'étiquette d'impérialisme. Est-ce que ce terme est heureux et est-ce qu'il marque bien les changements profonds des attitudes de Rome face à la guerre, Claude Nicollet?
Bien, je pense que ce terme, comme tous ceux de ce genre, est ambigu. Et je pense qu'il y a à la fois, même si on se place à l'époque de la Deuxième Guerre punique, comme l'a fait Brisson, continuité et rupture avec ce qui est la marque fondamentale peut-être de l'histoire romaine depuis les origines, c'est-à-dire avec naturellement des à-coups, des retours en arrière, cette espèce de marche constante vers ce qui nous apparaît à nous et ce qui apparaissait aux Romains, disons, du temps d'Auguste comme la domination du monde, mais qui est en même temps peut-être moins qu'une domination, une intégration en puissance des allogènes, et les allogènes commencent avec les Latins, aux portes de Rome, dans quelque chose qui sera la cité du monde, la cité romaine universelle, qui aboutit en 212 après Jésus-Christ, au moins théoriquement. Alors, impérialisme, oui. Et les adversaires de Rome n'ont pas manqué de le dire, et nous avons toute une littérature qui nous montre qu'on voit dans Rome un peuple de conquérants, un peuple de loups, un peuple qui vit des rapines de l'univers. Et d'ailleurs, c'est à l'honneur de certains Romains de l'avoir dit eux-mêmes et d'avoir senti qu'il y avait là quelque chose qu'on pouvait leur reprocher. Mais dans le même temps, il y a d'abord, au niveau des faits, une évolution beaucoup moins linéaire qu'on ne croit. Et on a pu récemment, dans un livre publié pour la deuxième fois l'an dernier, un savant anglais, Ernest Badian, contester cette notion d'impérialisme romain, au moins jusqu'à une date très tardive, et ceci rejoindra ce qu'a dit peut-être Pierre Vidal-Naquet sur l'idéologie du combat maritime, jusqu'à ce que, avec l'apparition ou le développement d'un parti populaire à Rome à la fin du IIe siècle, nous voyons véritablement apparaître, sinon une idéologie, du moins une pratique beaucoup plus cynique de l'impérialisme sous la forme d'annexions de plus en plus brutales et dont les causes, je ne dirais pas exactement économiques, mais je dirais plus précisément financières, sont évidentes. C'est pour combler les vides du trésor romain qu'à partir des années 123, avec un cynisme total, on décide de l'annexion de tel royaume jusqu'alors allié ou de telle zone dans laquelle on n'avait qu'une présence un peu épisodique. Et c'est toujours, on le constate, pour des raisons financières. Donc, dans ce sens, on peut parler d'impérialisme, mais il faut constater que c'est à partir du moment où le peuple romain, sous l'influence d'idées hellénistiques, a été peut-être plus persuadé de ses droits à l'intérieur de la cité romaine d'abord, et à l'intérieur du monde entier. C'est à l'époque où le peuple romain se considère comme un peuple roi qu'on voit apparaître cet impérialisme. Dans la période précédente, la période que nous appellerons sénatoriale, il est peut-être beaucoup plus difficile de parler d'impérialisme. Bien que les Romains aient projeté sur leur passé cette idée d'une conquête inéluctable et régulière, pendant très longtemps, Rome a été au fond très prudente dans sa politique étrangère, n'a pas tellement cherché à annexer, elle a cherché surtout à se protéger de dangers futurs. Du moins, dans la partie orientale de la Méditerranée, car Ernest Badian insiste très justement, je crois, sur le contraste entre la politique à l'égard de ces pays prestigieux qu'étaient les cités grecques ou les grands royaumes orientaux, et au contraire, la politique tout à fait brutale qu'on pouvait mener sans aucun risque dans des régions marginales, dans des régions barbares, où l'on pouvait se livrer à ce qu'il a appelé la chasse au triomphe, d'une façon tout à fait cynique. Mais quoi qu'il en soit, que nous soyons en présence d'une politique empirique ou, plus tard, incontestablement d'une espèce d'accélération de cet impérialisme. Ce qui est remarquable, comme l'a bien montré Brisson, c'est que Rome apparaît, même dans ses guerres nationales, dans ses guerres de défense contre Hannibal, comme une cité qui ne joue pas le jeu, comme une cité qui est différente des autres cités. Et d'abord, elle est une cité qui a un empire et qui a réussi à le garder, ce qui est déjà assez étonnant par rapport au monde grec, et à le garder longtemps. Et la première différence qui me frappe, moi, quand il s'agit d'Hannibal, ce sont les effectifs, n'est-ce pas ? L'armée romaine peut aligner des effectifs qui sont monstrueux pour l'époque, n'est-ce pas ? Comme si elle possédait une réserve d'hommes inépuisable, et en fait, elle l'a possédée. Elle l'a possédée parce que déjà, Rome, la cité de Rome, était par rapport à son adversaire, Carthage, une cité incomparablement plus peuplée. Et si elle était plus peuplée, c'est parce qu'elle n'avait jamais refusé, là encore, je parle d'une façon générale, elle n'avait jamais refusé l'intégration des allogènes, des gens qui n'étaient pas romains à l'origine, dans sa citoyenneté. Naturellement, là encore, le mouvement n'est pas linéaire, il y a des périodes de réaction, mais qui en fin de compte sont brèves. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que cette conquête romaine a fini pour, au fond, les responsables de la politique romaine par avoir comme horizon, bien sûr au départ, des raisons de défense ou une volonté cynique, comme nous l'avons vu, d'exploitation proprement financière, mais aussi, à long terme, l'intégration dans une citoyenneté qui se situait à un niveau supérieur et qui a pu être conçu comme une citoyenneté mondiale.
Pierre Vidal-Naquet, je crois que vous voulez glisser une remarque.
Juste une remarque pour dire à quel point, effectivement, tout ceci s'oppose à la pratique grecque. Les Grecs détruisent, à la rigueur, ils n'intègrent pas. Et quelqu'un l'a bien compris, c'est le roi Philippe V de Macédoine, qui, s'adressant aussi des Grecs de son temps, leur a dit « Que ne faites-vous comme les Romains ? Eux s'agrandissent ainsi. »
Et oui, tu fais allusion à cette magnifique inscription de la lettre de Philippe V aux habitants de Larissa. C'est très net, certains étrangers en étaient très conscients. Je voudrais maintenant, dans les quelques minutes qui me restent, toujours à propos de cette notion d'impérialisme, poser un problème qui nous ramènera à ces rapports entre les phénomènes de la guerre et les phénomènes sociaux. Après tout, nous avons tout de même accepter le mot d'impérialisme pour une certaine période de l'histoire romaine, la Tarda Republica, comme on dit. Et dans ce cas, il est légitime de se demander si cet impérialisme a été en quelque sorte soutenu par une ou plusieurs catégories sociales à l'intérieur même de la cité romaine, et naturellement des catégories qui avaient des moyens de faire accepter leur point de vue, n'est-ce pas ? En d'autres termes, quelle est la nature de cet impérialisme romain ? Par exemple, et nous avons toujours tendance à nous poser cette question, y a-t-il eu ce qu'on peut appeler un impérialisme économique ? Est-ce que des gens qui avaient une certaine fonction économique, et je pense à une classe qui a existé, et qu'il n'est pas question de nier dans l'histoire romaine, qui est la classe des hommes d'affaires, petits ou grands, qui ont accompagné ou précédé les armées romaines dans leur conquête de la Méditerranée, qui se sont installées le plus souvent en Orient, et qui ont certainement manipulé de très grosses affaires.
Oui, cet ordre équestre dont vous avez été, Claude Nicollet, le grand historien.
Je m'excuse, Le Goff, précisément pas cet ordre équestre. Je dis bien les négociants, les hommes d'affaires, mais je crois que la plupart d'entre eux n'étaient pas des chevaliers et que beaucoup d'entre eux n'étaient même pas des Romains, mais des alliés de Rome, des Italiens du Sud et souvent des Grecs ou des Campaniens. Mais ils forment économiquement une classe qui, à coup sûr, est solidaire. Pouvons-nous attribuer une responsabilité à ces hommes d'affaires dans les conquêtes, dans les mouvements de conquête, dans les annexions qui se précipitent à partir de la fin du IIe et au Ier siècle avant Jésus-Christ ? Eh bien, je crois que la réponse est négative. Il y a bien des textes qui nous prouvent que, dans certains cas, Rome tenait compte des intérêts de ces gens-là et, en particulier, intervenait pour les défendre dans des circonstances qu'on ne peut pas qualifier d'impérialistes. Par exemple, lorsque Rome intervient contre des pirates, des peuples spécialisés dans la piraterie, comme les Siciliens, par exemple, pour protéger des relations maritimes, c'est dans l'intérêt, et un texte épigraphique nous l'affirme, des Romains, des alliés de non-latins, mais de tous les gens qui se livraient à un commerce honnête, disons. Rome se chargeait de la police des mers. Est-ce que dans d'autres cas, nous avons la preuve que ces hommes d'affaires aient pu influencer certaines conquêtes ? Dans certains cas, oui, il n'est pas question de le nier. Mais à ce moment-là, je crois qu'il faut amener une précision importante. Ces hommes d'affaires étaient une couche tout à fait supérieure de la couche des hommes d'affaires. Là, nous retrouvons peut-être certains des hommes de l'ordre équestre, et ce que je sais d'eux me montre qu'ils agissaient beaucoup plus au nom des intérêts de ce qu'on peut appeler la classe sénatoriale, et encore plus de certains individus tout à fait dominants de la classe sénatoriale, dont l'histoire ne nous a pas gardé le souvenir direct parce qu'on a soigneusement mis au pilon leur correspondance qui aurait été trop compromettante, mais des hommes comme Crassus, des hommes comme Pompée, des hommes comme César, avec leurs liens avec certains groupes financiers, ont certainement trouvé un intérêt très précis dans certaines opérations de conquête. Je crois en revanche que la masse la couche spécialisée dans, si tant est qu'elle existait, elle n'était pas très importante, dans les affaires internationales à Rome, n'a pas pu, parce qu'elle était dépourvue en réalité de moyens d'action politique et parce qu'elle était dépourvue des moyens de se faire entendre véritablement des cercles dirigeants, n'a pas joué un rôle essentiel. Pour tout dire et pour prendre un exemple brutal, la conquête des Gaules a fait certainement l'affaire d'un très grand nombre de trafiquants qui ont précédé ou suivi les armées de César, mais ce n'est certainement pas la motivation essentielle de la conquête des Gaules. La motivation essentielle de la conquête des Gaules, c'était de fournir à un proconsul ambitieux les moyens, en argent et en hommes, qui lui permettraient de réaliser ses ambitions à l'intérieur même de la cité romaine.
Merci Claude Nicolet d'avoir su nous brosser ainsi ce tableau si profond et si vivant de l'impérialisme romain. Je crois que Jean-Pierre Vernon a un mot à ajouter.
Je voulais dire seulement que les faits religieux sont souvent assez significatifs des différences entre des sociétés et des cultures. Et que sur ce plan, sur la différence entre la cité grecque, qui parfois détruit son adversaire mais jamais ne l'intègre, et Rome, dont on a montré en quelque sorte la continuité, la ligne qui ne s'est pas démentie, eh bien, on pourrait dire que du point de vue religieux, ce qui caractérise par exemple les Hébreux, c'est que ils ont la volonté de détruire les dieux de leur adversaire. Que les Romains ont au contraire des rites, des procédures pour attirer à eux les dieux de leurs adversaires, de façon à s'assimiler la substance religieuse, sociale et ethnique de ceux qu'ils combattent. Mais que ces deux types d'attitudes religieuses est impensable en Grèce, car les dieux sont communs aux diverses cités qui combattent dans cette espèce d'agone, et par conséquent, ils sont plutôt les arbitres de ce conflit que des éléments qu'il s'agira de s'assimiler de façon à agrandir le territoire et la formation politique d'une cité par rapport à une autre.
Sur cette belle évocation à nouveau des aspects religieux de la guerre, j'aimerais bien que se termine ici cette émission, mais on me permettra de dire, comme je l'ai fait pour la Grèce, un mot d'aspects que nous n'avons pas évoqués, ceux qui concernent l'évolution de la guerre à Rome à l'époque impériale. Ici, un bel article de M. Pflaum a montré comment, par une sorte de paradoxe, au moment où c'est en quelque sorte l'armée qui a pris le pouvoir à Rome, cette armée n'a plus l'impérialisme à proprement parler comme motivation et comme but, mais la défense de la Pax Romana et au sein de cette Pax Romana des moyens essentiellement de guerre défensive. Et enfin, nous n'avons pas le temps malheureusement de voir comment se délite, comment s'effrite cette armée romaine de l'Empire sous l'effet de toute une série de causes telles que la diminution du recrutement des classes urbaines, peut-être, selon M. Pflaume, l'abandon du célibat des soldats, l'apparition de barbares dans l'armée, évidemment moins imbus des traditions militaires et politiques de Rome.
C'était un débat animé par Jacques Le Goff à propos de deux ouvrages jumeaux consacrés au problème de la guerre en Grèce et à Rome. Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Paul Brisson et Claude Nicolet, une émission diffusée la première fois le 11 mai 1970.